Et vous écoutez France Culture. Cette silhouette assise sur un lit d'enfant et dévorant quelque chose de pas tout à fait mort. Jérémy Fell, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Joie de vous retrouver toutes et tous après deux mois d'insupportable séparation pour le coup d'envoi de cette nouvelle saison de Mauvais Genre, où rassurez-vous, rien ne nous sera, ne vous sera épargné des monstres tapis entre les pages, sur les écrans ou au cœur des cases. La preuve en est avec notre invité de ce soir, Jérémy Fell, auteur des Loups à leurs portes, fait retour avec Elena, un enragé roman accusant une superficie de 781 pages, et nous plongeons en plein cœur d'un Kansas où les âmes sont aussi noires que les blés y sont jaunes. Rendement record d'horreur à la page. Chronique également, second temps d'émission. De nouveautés signées Benjamin Mayer, Sandrine Michoud, Romain Slocombe ou Yon Krakauer. Rien de ce qui est inhumain ne nous est étranger. Bienvenue à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Nous sommes, je le répète, très très heureux de vous retrouver après cette rude et douloureuse coupure de l'été. Vous retrouverez tout au long de la saison l'équipe au grand complet telle que vous avez pu l'apprécier donc dans la saison précédente. Nous ne changerons évidemment rien à nos secteurs de compétences. Nous continuerons de vous parler du mauvais genre en soi et puis du mauvais genre tel qu'il se décline dans le polar, la science-fiction, l'érotisme, l'aventure, le comique, le cinéma, je vous donne d'ores et déjà le programme de ce mois de septembre. Aujourd'hui, c'est Jérémy Fell que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
La semaine prochaine, nous recevrons Nicolas Stanzik pour le troisième tome de la réédition de Midi Minuit Fantastique. La semaine d'après, Guy Coste et Joseph Alterac pour Rétrofiction, une monumentale encyclopédie de la vieille anticipation scientifique. Et puis après, Émile Faris, dessinatrice, qui sera là à l'occasion du Festival América, dont France Culture est partenaire. Elle viendra nous voir pour le formidable album qu'elle publie chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, les monstres, moi j'aime ça. Et puis on sera également au Festival de Pau, et puis au mois de novembre, au Festival de Nantes. Je signale néanmoins que l'événement Mauvais Genre, dans les jours et les semaines qui viennent, bien sûr à Paris, c'est l'étrange festival, nous vous en dirons un peu plus la semaine prochaine. Je dédierai cette émission bien évidemment à la mémoire de Michel Cazenave, qui nous a quittés le 20 août et qui a énormément fait à France Culture pour la fantastique, la science-fiction, le cinéma. Et je sais ce que je dis, puisqu'en 1983, c'est lui qui m'a commandé ma toute première émission consacrée à Lovecraft. Nous n'oublierons pas la figure et la personne et les livres de Michel Cazenave. Bonsoir donc une seconde fois, Jérémy Fell.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour donc Elena, qui est... Alors j'ai dit 781 pages, j'ai dû me tromper, bien évidemment.
Non, vous êtes trop généreux.
C'est trop généreux, ouais. C'est un peu moins. C'est 733, voilà. 732. J'avais fait déjà une suite. Donc, il y a donc votre second roman. Vous étiez avec nous pour le premier, en 2015, je crois.
Oui,
qui s'appelait Les Loups à leur porte. Qui avait déjà pas mal secoué le landerneau du roman noir et du roman policier. Moi, j'ai gardé souvenir, effectivement, d'une scène de dîner familial qui tourne court, si j'ose dire. Et là, on retrouvera une violence et une noirceur équivalente dans ce nouveau roman. Soyez le bienvenu, donc, Jérémy Fell. Élise Lépine est là.
Bonsoir.
Bonsoir, Élise Lépine. Quoi de neuf ?
Bonnes
vacances.
De bonnes
studieuse.
Vacances. Studieuse, reposante. J'étais à la pointe la plus extrême, la plus à l'ouest de la France, en Bretagne. Ce qui me va très bien, étant donné que je suis moi-même plutôt à l'ouest, en général.
Voilà, très bon, c'est parfait, vous êtes recadré d'une certaine manière. Hubert Prolongeau.
Bonjour.
Alors, comment va-t-il ?
Il va bien, il a eu des vacances plutôt laborieuses, puisque les rumeurs du monde s'éloignant un peu pendant l'été, et surtout dans mon Libournais d'origine, donc j'ai pu travailler à des œuvres qui, j'espère, éblouiront les foules d'ici peu.
Bien évidemment, et nous en parlerons donc avec vous deux. Nous allons questionner Jérémy Fell, et puis en fin d'émission, vous nous ferez quelques chaudes recommandations en matière de littérature noire. Mais l'heure est venue de laisser la parole à Céline Duchesnet, que je salue.
Comment
Bonsoir
François.
Bonnes vacances également.
Également, oui. J'ai vu les pélicans blancs dans le delta du Danube. Oui, je suis allée contempler leur ventre doré.
Le ventre doré des pélicans blancs dans le delta du Danube. Très bien. Voilà, déjà une belle impression pour ouvrir. Et ce soir, de quoi va-t-il être question ?
Eh bien, nous allons accueillir l'artiste Moustafior et son rendez-vous avec Gynéco Pervers.
Ce rendez-vous avec Gynéco Pervers, en fait, il est né parce que c'est assez difficile aujourd'hui de trouver des revues pornographiques donc, des années 70. Et j'ai trouvé un monsieur qui m'a vendu une petite série de magazines que j'ai pu utiliser donc pour le découpage, le déchirage, pour pouvoir faire des collages. Et il s'est trouvé que celui-ci, j'arrivais pas à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à l'utiliser, je n'arrivais pas à découper les images. Soit elles étaient trop crues pour être utilisées d'autre manière, soit les images n'étaient pas ou étaient pas assez grandes, donc j'arrivais pas à utiliser. Donc il est resté dans un coin et puis je me suis dit à un moment donné, tiens, et si je collais des fleurs sur les actes qui sont présentés dans ce magazine. Et je me suis dit, je vais découper des fleurs, mais je vais y aller à la dentelle, quoi. Donc je vais découper des fleurs, vraiment faire en sorte que le découpage soit pas parfait, mais enfin qu'il soit le plus propre possible. Et je suis venu coller ces fleurs dans le magazine sans découper les pages, sans déchirer les pages. Les fleurs ont été collées directement sur les photos. Donc il y a une partie des fleurs donc en couleur ont été collées sur les photos donc couleur, et j'ai découpé des fleurs en noir et blanc que je suis venu coller sur le texte, parce qu'il y a un texte qui va avec le magazine, donc que j'ai collé sur le texte pour masquer, comme je l'ai fait pour les images couleur, j'ai masqué une partie du texte en collant ces fleurs noires et blanc.
Pourquoi des fleurs ?
Une espèce d'idée récurrente qui n'est pas nouvelle, d'associer la fille, la femme à la fleur, qui date depuis qui n'est pas nouvelle, donc au 19e siècle, si je me rappelle bien, il y a un illustrateur, un grand illustrateur qui s'appelait Granville, donc qui a dû illustrer du Balzac, qui a dû illustrer de La Fontaine, et qui a dessiné un très très bel ouvrage qui s'appelle Les fleurs animées, dans lequel il dessinait des femmes et qui étaient habillées de pétales de fleurs, voilà, qui est un superbe ouvrage du 19e. Donc voilà, cette idée n'est pas nouvelle d'assimiler les fleurs et les femmes. Ça peut être un peu bateau aujourd'hui aussi, mais pourquoi ne pas aussi faire en sorte de retrouver des histoires du passé pour pouvoir les contextualiser donc dans un environnement donc d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'idée de mettre ou de coller des fleurs sur des femmes, sur des actes pornographiques, ou des fois aussi tout simplement sur des filles, parce que j'ai collé d'autres fleurs sur d'autres filles sans sexualité derrière. Et j'ai fait en sorte, donc, sur la couverture et à chaque fois à l'intérieur du recueil, de masquer une partie du visage, notamment les yeux des acteurs, et une petite partie de l'acte sexuel. Donc à chaque fois, cette idée, c'est de masquer les yeux et une partie de l'acte sexuel pour quelque part oublier un petit peu les personnages et de se concentrer sur la fleur qui est juste devant, et faire en sorte de poétiser un petit peu la revue qui, elle, ne l'était pas au départ.
Ainsi, Moustafior découpe les femmes, les fleurs, tout ce qui lui plaît ou l'interpelle passe entre ses ciseaux d'or. Ce grand collectionneur, échineur de vieux magazines, de revues et même d'objets sonores, crée ses œuvres à partir de cette matière première. Son objectif, perturber l'œil et proposer une nouvelle image en provoquant la rencontre d'univers a priori éloigné. Et le pari est réussi lorsque l'on tient, comme moi, entre les mains ce rendez-vous avec Gynéco Pervers. Ouvrage destiné aux adultes aimant la sodomie et les papiers peints, peut-on lire sur le site de Culture Commune, éditeur de ce petit ouvrage. Et impossible de le rater, la couverture montre un docteur vêtu uniquement de sa blouse bleue, en plein exercice, position acrobatique sur son fauteuil gynécologique, en compagnie de sa patiente extatique. une image transformée par des feuillages et des fleurs jaunes délicatement ciselées. Alors pour retrouver l'art de Moustafior, direction son site internet www.moustafior.wixsite.com/moustafior. Sachez que les collages de l'artiste sont aussi présents dans le numéro 15 de la revue trimestrielle Le Bateau, revue consacrée au corps et aux sexualités, ainsi que dans le numéro 4 d'Aventure, revue érotique où Moustafior présente 4 pleines pages, une série intitulée Fleurs de Buisson. Et par ailleurs, Moustafior exposera en compagnie de Flore Kunst une série de collages dans les pièces du château de Buzet à La Jarne, en Charente-Maritime, à l'occasion des Journées du patrimoine du 15 au 23 septembre.
Merci Céline pour cette entrée moustafioresque de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Jérémy Fell, vous avez une réaction parce que vous avez compulsé avec beaucoup d'attention là.
Ah, j'étais très attentif sur les images, effectivement. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vois un livre pornographique où les éjaculations ne sont que florales. Voilà.
Ah oui,
mais ça me faisait un peu penser à Mapplethorpe. J'aime beaucoup Mapplethorpe qui, à la fois, photographie des corps dans des positions souvent assez pornographiques et des fleurs à côté. Donc, cette espèce d'union des contraires, là, ici, je trouve assez réussi.
Très bien, bah merci pour cette réaction sur Moustafior. On parlait d'actualité, Céline Duchesnay, vous avez une future actualité cinégétique. Ah bah, il y en a plusieurs. Il y a d'abord une actualité radiophonique.
Oui, il va y avoir Une vie, une œuvre qu'on a consacrée avec Laurent Polleret à Pierre Molinier, qu'on retrouvera le 8 septembre donc sur la chaîne de 15h à 16h. Et puis autrement, est-ce que vous faisiez allusion aux sorcières?
Je faisais allusion aux sorcières.
Vous faisiez allusion aux sorcières, mais ça c'est un petit peu plus tard.
Voilà,
oui, ce sera 19 septembre.
Rapidement, 19 septembre. Notez bien, auditeurs.
Voilà, ce sera une déambulation sonore dans les salles du musée de la chasse et de la nature à Paris. Mais ce sera retranscrit aussi pour les absents et les non-parisiens sur le site de France Culture. Mais on vous reparlera de tout ça en temps et en heure.
En détail, il y a déjà quelques précisions sur nos réseaux sociaux.
Avec Laurent Polleret, bien sûr.
Bien évidemment. Laurent Polleret, je ne le dis pas, on s'en doute, on l'entend, on le sait. C'est lui, bien évidemment, qui, une fois de plus, va pousser cette émission vers la perfection en la réalisant tout au long de cette saison. Donc, merci, cher ami, et heureux de vous retrouver. Et ben justement, on parlait de Laurent Polleret. On écoute là son premier choix pour cette émission placée sous le signe d'Héléna, le dernier roman de Jérémy Fell chez Rivage. The Lake, un choix donc de Laurent Polleret pour Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Alors, en 2015, Jérémy Fell, notre invité de ce soir, défrayait la chronique polardière, pas vraiment polardière, la chronique noire tout court, avec Les loups à leur porte, donc un premier roman où tout n'était pas parfaitement cadré, selon moi. À l'époque, on en avait un petit peu parlé, mais il y avait quand même déjà, on sentait une véritable sens de l'angoisse, de la montée dramatique, du crescendo horrifique, avec notamment au cœur du roman une scène, je le répète, de dîner familial, une famille américaine comme les autres, le malheur de laisser entrer, je dirais, un personnage pas comme les autres, et le résultat est parfaitement sanglant, et la narration que vous en aviez faite avec cet enfant assis auprès de la porte était absolument étonnante, et donc on était très impatients de voir la suite de votre, je ne veux pas dire carrière de romancier, mais votre parcours d'écrivain. Et là, effectivement, on n'est pas du tout déçu, puisque l'ouvrage fait 732 pages, je rectifie le tir, ce qui est déjà une longueur extrêmement impressionnante pour un auteur, je dirais, francophone et français. C'est d'abord une longueur qui est la plus tard du temps pratiquée par des romanciers anglo-saxons, voire américains. Je ne citerai pas le nom du plus célèbre d'entre eux, mais c'est la longueur déjà m'a beaucoup étonné. Le livre n'est pas énorme, puisque le papier en est très fin, mais la longueur d'ailleurs est très étonnante. Et puis vous avez repris d'une certaine façon le cadre, l'univers de celui qui était le héros des Loups à leur porte, c'est-à-dire Daryl Greer. Alors, il a disparu, mais le lieu même où il a sévi est toujours là, puisque les choses se réincarnent dans un endroit équivalent. Et puis parlons du cadre, c'est le Kansas. Alors là, le Kansas, c'est tout à fait un endroit étonnant. Alors, il y a le Kansas du Magicien d'Oz. Il y a le Kansas, par exemple, que l'on peut trouver dans Jardin de sable de Earl Thompson, paru chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Un énorme roman, mais alors là, rabelaisien, carnavalesque, monstrueux, du Kansas de l'époque de la Grande Crise. Là, c'est tout à fait différent. C'est un véritable lieu désertique. C'est un désert de blé, un désert de maïs totalement étal. Un lieu où, apparemment, il n'est pas censé se passer c'est beaucoup de choses, et je vais vous citer. À la longue, le Kansas lui parut encore plus ennuyeux que le Tennessee, désespérément plat et terne, des champs et des plaines à perte de vue, le cœur de l'Amérique à ce qu'on prétendait, le Kansas, un cœur qui avait oublié de battre depuis longtemps. Donc là, vous avez fait choix d'un lieu qui est une sorte de gigantesque toile de fond, vide, ou quasiment, sur lequel vous pouvez, alors là, faire des macules et des coups de couteau violents, Jérémy Fell.
Oui, c'est vrai que le Kansas, pour moi, c'est un terreau fantasmagorique assez fort par mon enfance avec le Magicien d'Oz, par mon adolescence quand j'ai lu de sang froid Truman Capote. Et c'est vrai que dans Les Loups à leur porte, le mal naît au Kansas. Et moi qui adore les lieux hantés, quand j'ai commencé à écrire ce roman, qui était déjà une nouvelle en fait. Donc du coup, ça aurait pu être un chapitre des loups d'ailleurs. Ça aurait pu être une nouvelle si j'avais laissé en nouvelle. Et j'ai décidé d'en faire un roman. Et je voulais reprendre ce même lieu parce que je pensais que je n'avais pas assez dit. Et je voulais raconter un peu l'histoire de ce lieu. Et comme ce que j'écris sont souvent des histoires de transmission, il y a aussi une espèce de transmission quasiment fantastique qui se fait entre le personnage de Daryl Greer et un autre jeune homme qui a à peu près le même âge que lui quand il fait enflammer la maison de ses parents, qui s'appelle Tommy, qui est un des personnages principaux du livre.
Et le personnage de Jessup.
Oui, alors lui,
voilà, c'est... Parce que avant d'attaquer l'histoire de manière franche et massive, on peut quand même citer les antécédents dramatiques et horrifiques de ce petit coin du Kansas. Il y a d'abord eu un personnage lynché par la foule dans une grange, ouais. Et puis après, effectivement, Daryl Greer et après Tommy. Donc
voilà, une espèce de lignée comme ça, un peu maudite. Alors on ne sait pas si les liens, évidemment, sont aussi clairs que ça. Tommy est hanté par une espèce de présence terrifiante qui pourrait être le fantôme de ce Jessup, qui pourrait être le fantôme de son propre père, qui pourrait être un élément, enfin, qui prouve sa schizophrénie.
Donc, le génie du lieu.
Oui, voilà.
Le mauvais génie du lieu.
Mais de toute façon, même dans Les Loups à leur porte, il y a un des personnages qui dit que la mère de Loretta, le personnage principal de la première nouvelle, dit que les lieux sont hantés. Et quand Mary Bess retourne dans Les Loups à leur porte, dans cet endroit-là, et à croise Norma, donc c'est un petit clin d'œil que les lecteurs des loups reverront, parce qu'on voit les personnages principaux de celui-là dans le premier, elle dit qu'elle sent tout de suite une présence négative. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais exploiter aussi, sans forcément trouver des solutions. Enfin, donner un éclairage trop fantastique au livre, mais avec cette piste-là qui peut être envisagée, en tout cas, en filigrane.
Alors, un lieu, on vient d'en parler, immense, faussement vide, qui est le Kansas, des antécédents dramatiques, Daryl Greer, le héros de votre précédent roman, Les Loups à leur porte, et puis avant, ce Jessup lynché par la foule suite à quelques crimes horribles, et puis la nouvelle intrigue, Elise Lépine. Alors là, on retrouve... Je dis d'une certaine façon développée, orchestrée sur 700 pages, l'histoire d'une confrontation, on peut dire, entre une femme et une famille.
Entre une femme et une famille, voilà. Moi, c'est ça que j'adore dans cette idée que vous avez eue de prendre l'idée d'un lieu maudit à la Amityville, un peu, et de la poursuivre dans votre deuxième livre. C'est que vraiment, ça vous permet de développer cette obsession que vous avez pour le monstre et pour la figure du monstre, et pour une espèce d'épidémie de monstruosité de personnage en personnage, en fait. Et donc, oui, c'est axé autour de cette jeune fille. Moi, j'adore parce qu'on est vraiment dans toute l'histoire horrible et on voit qu'on court à la catastrophe avec la jeune fille qui roule dans son cabriolet, les cheveux au vent, insouciante et inconsciente de ce qui va lui arriver, puis qui tombe en panne et qui va être accueillie dans la maison de Tommy, donc cette maison maudite, sous l'aile de sa mère Norma. Tommy a un frère et une sœur, une petite sœur qui est miss dans des concours de beauté pour qui sa mère a de grandes ambitions, et puis un frère qui lui est plutôt lumineux, plutôt équilibré. Et puis Ellie va attirer la convoitise de Tommy, qui lui est le personnage inquiétant et l'héritier un peu de cette monstruosité dont on avait déjà parlé dans le premier roman, et puis qui va potentiellement lui transmettre cette monstruosité, puisque c'est une histoire un peu de rape and revenge. Hein,
Ah oui, je même dans le premier, je quand mon éditrice m'avait fait le résumé du livre, la première fois qu'on me l'a fait, c'était, elle a dit que c'était vraiment un livre de la transmission de la violence. C'est ce que j'aime, par exemple, dans les films de Refn aussi, c'est qu'il filme, enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse.
Winning Refn.
Refn, Only God Forgives, voilà. il filme vraiment d'une façon très cinématographique une violence qui passe de corps en corps. Et là, c'est ça, c'est une jeune fille. Moi, ça faisait un peu. Enfin, j'aime beaucoup le théorème de Pasolini avec donc cette famille et puis un élément déclencheur qui arrive dans la, et qui fait tout exploser. Là, c'est un peu ça. Au départ, la nouvelle, je voulais l'écrire un peu. C'était un peu un hommage à Massacre à la tronçonneuse. Donc, c'est une jeune fille qui tombe de bonne famille qui tombe en plein milieu du Kansas, qui tombe sur une famille de cinglés. Bon, là, le roman, les personnages ont été beaucoup plus nuancés que dans la nouvelle. Mais effectivement, c'est une espèce de contamination. De toute façon, le mal dans le premier livre, Daryl contamine les personnages, Walter, et là, la violence contamine les personnages qui sont confrontés à cette violence. Et ils n'y échappent pas, d'ailleurs, ils sont tous piégés dans ce livre, même Tommy, hein, ils sont tous piégés par, dans une certaine violence, dans une angoisse, dans des choses qu'ils n'ont pas à maîtriser. Ils essaient de s'en sortir, et ils sont pris dans une espèce d'engrenage infernal, tous les quatre...
Alors, répétons-le, donc, confrontation entre une famille, la mère, Norma, qui est une sorte de mère-poule monstrueuse, une sorte de créature quasi shakespearienne dans l'amour dévorant et homicide qu'elle a pour ses enfants. Donc, elle a trois enfants, effectivement, Graham, qui est peut-être le plus équilibré, le plus socialisé, qui partira à New York, qui adore la photo, qui a des amis, bon, tout va très bien. Il y a Cindy, la fillette blonde, une espèce de petite poupée Barbie qu'on promène de concours de Miss en concours de Miss qui représente un petit peu la vision idéale de sa mère. Et puis entre les deux, ben, il y a le monstre, il y a Tommy, qui est le fils donc du deuxième amour de Norma, mais un amour qui s'est fini tragiquement puisque ce père, elle a découvert un jour qu'il violentait son fils. Et Tommy porte justement la malédiction. Hubert Prolongeau.
Vous avez déjà un peu répondu, là, par les références que vous nous avez offertes jusque-là, à cette question. Est-ce que vous pensez cinéma quand vous écrivez? Parce que quand on lit votre livre, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est écrit comme un scénario, ce qui est le défaut de romans, justement, beaucoup trop prêts à être adaptés. Mais vous donnez énormément à voir, vous avez un sens du détail. Et en fait, autant que des phrases, vous créez des images. L'image, par exemple, de cette Chevrolet rouge dans le soleil, c'est des choses qu'on voit. Est-ce que vos références, elles sont très cinématographique encore plus que littéraire.
Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de références. Moi, en fait, ça vient aussi de ma façon d'écrire. Je vois les scènes en images et je veux transmettre ces images par les mots. Mais c'est aussi parce que c'est ce que j'aime aussi dans beaucoup de littérature américaine, c'est cette façon d'être projeté dans l'univers. Et Bergson disait que l'auteur doit faire oublier qu'il utilise des mots. Et j'aime provoquer ça. J'aime que le lecteur, à la fin, ne voit plus les mots et il voit les images, il voit les sensations, il ressent les sensations. Et c'est très cinématographique parce que c'est une. Moi, je pense que la littérature peut créer des images encore plus fortes que le cinéma parce que c'est des images que le lecteur va s'approprier et créer ses propres images avec. Donc c'est une espèce de mariage entre mon propre univers et puis l'univers de chaque lecteur. Et le livre sera différent selon chaque lecteur. Après, j'ai pris je dis souvent que je veux prendre le lecteur par la main et puis après tranquillement comme ça, l'inviter à mon univers et après je le serre par la nuque. Et puis là, je lâche plus. Et le prendre par la main, c'était utiliser des schémas qu'il a déjà vus. La fille dans sa décapotable rouge, le tueur en série, la mère un peu Desperate Housewives. Des vraiment des figures qu'on a vues dans plein de séries, plein de films. Donc, qu'on peut appeler des clichés, mais qui sont utilisés pour après l'emmener vers quelque chose. Autre part. Et puis, voilà.
Et vous notez des couleurs, vous dessinez même des choses ou des éléments de décor, ou comment vous fabriquez un peu ces images écrites?
Non, je ne dessine pas. J'aimerais bien savoir dessiner, mais malheureusement... non, mais c'est des choses très physiques, en fait. C'est trop très visuel qui viennent, et donc je... Les couleurs ont beaucoup d'importance dans ce que j'écris. Évidemment, la voiture rouge... c'est la voiture, c'est un peu Christine de Stephen King. Bon, là, voilà, il fallait pas parler de Stephen King aujourd'hui, mais c'est moi qui le fais, mon Dieu.
Ah,
j'ai fauté.
On avait juré de ne pas prononcer.
Non, mais c'est comme même les morceaux de musique. Je mets des morceaux de musique parce que j'ai envie que le lecteur ait la musique en tête. C'est vrai que j'ai envie qu'il y ait j'aimerais qu'on lise mes livres comme qu'on écoute de la musique au cas d'un film. Soit une espèce de relation très physique, très, voilà.
Il avait dès lors pris l'habitude de dormir les rideaux tirés. Mais le démon n'en avait pas fini avec lui. Tommy n'avait pas tardé à le revoir en rêve. Il se trouvait dans le couloir de son lycée et admirait une jeune femme qui parlait au téléphone, ses cheveux dorés crépitant sous la lumière du soleil, le bout de ses seins pointant sous son chemisier. l'essence aiguisée par ce corps qu'il ne pensait plus qu'à posséder, il l'avait d'abord remarqué juste à côté d'elle, lui, son épaule comme soudée à un des casiers. Cette présence hideuse qu'à part lui, personne ne semblait voir. Ne pouvant même pas appeler à l'aide, Tommy s'était figé de terreur au plein milieu du couloir et le monstre avait poussé un rire sinistre pendant que la jeune femme, tout en continuant à parler au téléphone, commençait à perdre des filets de sang entre ses cuisses. Tommy s'était réveillé en sursaut et avait pris un de ses carnets pour essayer de le dessiner. C'était la première fois qu'il le voyait d'aussi près. Il ne voulait pas oublier le moindre détail.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà l'extrait d'Elena de Jérémy Fell, notre invité ce soir, donc dans Mauvais Genre. Effectivement, vous parlez de ces mots qu'on finit par oublier. C'est vrai qu'il y a quand même un travail du style chez vous qui est, c'est au-delà de l'écriture blanche. C'est-à-dire qu'à aucun moment l'écriture ne doit gêner la transmission des affects et des sentiments, qu'ils soient les plus horribles possibles. Et vous étalez comme ça, c'est ce qui vous permet de faire effectivement cette 130 pages. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, il y a pas de volonté arbitraire et marquée de faire du style, de faire de l'écriture avec des moments de bravoure, avec tout passe dans une espèce de climat général, une sorte de sentiment, c'est à la fois très très mince, comme une sorte d'enveloppe comme ça, comme si l'histoire était l'écriture enveloppait l'histoire comme un vernis ou comme une sorte de matière très souple, et ce qui fait que par moment, comme le roman est très long, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que vous jouez beaucoup avec un. Et là, je trouve ça quand même littérairement très fort. Il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette succession souvent qui est un peu le problème des romans noirs, c'est-à-dire le temps fort et le temps mort, ou le moment d'activité, le moment de repos. Il y a des moments où vous ralentissez les battements de cœur à la limite du fait que le pouls n'est plus perceptible dans votre récit. Et puis brusquement, ça remonte et ça part vers des crises de violence, on va en entendre une là, dans quelques minutes. Là, il y a vraiment une volonté chez vous de jouer avec un récit qui par moments semble s'arrêter, les gens parlent entre eux, ben on est très content pour eux mais on se demande ce qu'on fait là, et puis brusquement un détail nous dit que quelque chose va avoir lieu, et peu à peu la tension remonte, le pouls revient et brusquement on recommence à rentrer dans un récit horrifique, enfin dans un récit noir.
Oui,
Jérémy Fell, pardon.
Oui, mais en plus les scènes comme ça, on voit des personnages qui parlent. Enfin, c'était exactement les plus agréables à écrire. Ça et les scènes de cauchemar. Enfin, en tout cas pour moi. Après, moi, je l'ai pas écrit comme un. On me dit souvent que c'est un thriller. Ou le but, c'est pas construire une intrigue. Moi, c'est les scènes viennent d'une façon quasiment inconsciente. Alors, je raconte ça tout ça. Je sais pas si c'est facile à comprendre, mais c'est chaque scène qui en entraîne une autre pour moi. Et je suis un peu aussi lecteur de ce que j'écris. Voilà. Et effectivement, j'ai envie de balader le lecteur un peu, voilà, qui ne puisse pas avoir d'avance sur le récit. Bon, alors c'est l'auteur américain dont faut pas qu'on parle aujourd'hui qui disait que pour être sûr que le lecteur n'ait pas d'avance sur le récit, il faut que l'auteur non plus. Et je suis assez d'accord avec ça. Et j'aime bien ces moments de calme avec la tempête parce qu'on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose qui va terrible, de terrible qui va arriver. Et c'est une façon aussi de jouer avec les nerfs du lecteur, évidemment.
Oui, tout
même
à fait.
Si parce que je peux pas imaginer comment le lecteur va réagir à ce que j'ai écrit en l'écrivant.
Il y a une espèce d'anxiété en creux qui apparaît. On suit Norma faire ses courses, s'occuper de sa fille, se soucier de ses enfants. Bon, tout va très bien. On est amis de la famille. On a l'impression d'être un peu l'ami de la famille. On écoute, on voit. Pareil pour d'autres personnages. Et puis brusquement, il y a un indice, c'est Lise Lépine, qui fait
oui,
que
y a un vent
la
de
tension
panique.
Réapparaît.
Il y a un vent de panique qui souffle sur ce livre et qui souffle plus ou moins fort selon les situations qu'on traverse. Mais c'est vrai que par moments, on le sent frôler nos oreilles alors qu'effectivement, on est en train de suivre Norma qui fait ses courses ou qui conduit tranquillement sa voiture. Mais donc, en fait, si je comprends bien, vous êtes un écrivain qui ne fait pas de plan.
Ah, jamais. Non, non.
Vous laissez vous-même surprendre.
Le premier, j'étais voir quand j'ai fait des rencontres à la librairie, je voyais des libraires qui avaient fait des plans entre les rapports entre les personnages. Et c'est la première fois que je le voyais, ils me croyaient pas quand je leur disais que je faisais pas de plans.
Parce que c'est vrai que c'est un roman qui est quand même tentaculaire.
Ouais, il s'est construit. Alors après, effectivement, quand j'ai vu d'ensemble, je retravaille un peu pour que les choses s'accordent bien. Mais c'est vrai que j'avance un peu à tâtons. J'ai ce plaisir-là, en tant qu'auteur, d'avancer dans mon univers à tâtons aussi. Voilà.
Vous coupez beaucoup, il y a beaucoup de pistes que vous suivez, et puis au bout d'un moment, c'est l'impasse.
Ça m'est pas arrivé sur celui-là. Enfin, j'ai pas le souvenir. Il y a des scènes que j'ai enlevées, mais généralement, ça s'est fait. Enfin, facilement, c'est pas le terme, parce que c'est pas facile, évidemment. Mais j'avançais à tâtons et donc assez lentement. Et donc voilà, quand je m'engageais dans une voie, je pensais que c'était la bonne. Et puis je vois évidemment si le chapitre s'imbrique bien avec le reste. C'est un peu le work in progress.
C'est pour ça qu'on est toujours surpris, parce qu'on sent parfois votre propre peur, d'ailleurs, voilà. J'imagine.
De toute façon, je parle, là, on voit toutes mes peurs, toutes mes angoisses dans ce livre, dans le premier, et ça, ça se passe aux États-Unis, donc il y a une distance qui se fait. Peut-être que j'avais besoin de cette distance aussi pour parler de choses très personnelles. Alors après, on va me demander qu'est-ce qui dans ma famille fait que j'écris des choses aussi terribles. Il n'y a pas.
C'est exactement ce que j'allais vous demander. Voilà. Je ne sais
alors
pas.
Alors là, donc les gens de ma famille m'écoutent peut-être en ce moment. Voilà, donc si je ne vais pas dire non. Il n'y a rien
de rencontrer Madame votre mère. J'accepterai immédiatement. Qu'est-ce qui vous donne quand même cette vision de l'enfance et des liens familiaux aussi terrifiantes?
Alors ma mère était un peu à phare dans la nuit, donc c'est pas du tout. Ma mère n'est pas Norma ni d'autres personnages du livre maternel. Voilà.
Nous en sommes ravis pour.
Non, c'est pour ça que je lui ai dédié le livre, parce que c'est une personne qui heureusement était là. Après, j'ai vécu une enfance d'enfants divorcés avec des voilà. Je vois une psy actuellement qui me dit que je suis en angoissé de nature et depuis l'enfance. J'ai perdu un jumeau, donc il y a beaucoup de choses quand même qui ont fait que ces angoisses-là ressurgissent. J'étais un enfant très, vraiment terrifié par le croque-mitaine, je dormais emmitouflé dans des draps, enfin voilà. Donc toutes mes peurs, mes angoisses ressurgissent évidemment dans ce que j'écris. Et c'est pour ça qu'un personnage comme Tommy, même s'il fait des choses terribles, j'ai l'impression que c'est peut-être celui qui est le plus proche de moi d'une certaine façon. Alors ça fait faire peur à certains lecteurs quand je dis ça, mais cet enfant à qui on cache des choses et qui grandit dans une espèce de secret permanent et qui n'arrive pas à mettre un mot sur ses angoisses, c'est pour des choses raisons particulières, c'est quelque chose que je peux avoir connu.
C'est ça pour vous l'enfant, c'est le réceptacle de toutes les peurs?
Non, pas du tout, non, mais en tout cas, si un enfant, c'est aussi le moment où les choses se créent vraiment, et si un enfant comme Tommy subit un acte terrible qui le détruit complètement et qui n'a pas à côté quelqu'un qui va l'aider psychologiquement à surmonter ça, parce que Norman n'y arrive pas, ne veut pas le faire, ça crée vraiment des dégâts. Et Tommy est un personnage avant tout une victime. Il fait des choses terribles, mais c'est aussi une victime.
On va parler de Tommy et de L.A., la grande confrontation dans quelques instants. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on termine avec le Kansas. Ce qui fait que votre film, votre roman m'a fait penser à un moment à la célèbre scène de Hitchcock où le personnage est attaqué par un avion dans un champ de blé. C'est-à-dire que, rappelez-moi
La mort aux trousses.
La mort aux trousses, voilà. À ce moment, cette scène légendaire de la mort aux trousses où le héros a un rendez-vous dans un endroit où il n'y a rien. Et puis au loin, il y a ce fameux avion et qui brusquement va l'assaillir. Mais on sent, on voit la manière dont les choses grandissent, où il y a des fausses pistes, des indices n'en sont pas. Et brusquement, c'est quelque chose qui est au fond, qui est la véritable menace. Et là, c'est un petit peu la même chose, puisque le Kansas, normalement, il n'y a rien. Autant si vous êtes à New York, à Chicago ou dans un petit bled de la Louisiane, vous êtes dans un lieu hyper narratif où l'événement est présent, vous pouvez invoquer la folie urbaine ou le folklore, des milliards de choses. Autant là, vous êtes dans un endroit vide, totalement. Et c'est cette espèce de vide comme ça qui finit par être entêtant, angoissant et qui appelle l'événement. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'immensité est quasi désertique, enfin c'est pas désertique puisque tout le moindre pouce est cultivé, mais cette immensité finit par appeler l'événement par un phénomène de contradiction presque. Jérémy Fell.
Oui, c'est pour ça que moi dans le premier livre, parce que je dis souvent, j'avais dit souvent quand je parlais du premier que le deuxième serait une excroissance monstrueuse du premier chapitre. Et donc le premier livre, c'est le Kansas, et c'est pour moi là où le mal peut surgir. Et après, je peux pas exactement dire pourquoi j'ai choisi cet état-là. je vous dis, c'est par rapport à des...
C'est
à
pas
des
un état, c'est un paysage.
Ce paysage, oui, non, mais ce paysage de d'immensité comme ça, et puis...
C'est
ça que j'aime dans les États-Unis aussi, c'est pour ça que j'ai, mes deux romans se passent là-bas. C'est pas parce que je fantasme d'écrire un roman américain, pas du tout, mais c'est parce que ce sont des décors qui amènent l'imaginaire, qui,
ces grands décors, ces grands espaces. Il y a cette image des tornades aussi, hein, c'est des...
Oui, alors la tornade, mais comme le roman, je le vois comme une tornade qui emporte tous les personnages.
C'est extraordinaire.
Il fallait absolument qu'il y ait la tornade.
On parlait de scène shakespearienne. Norma défie la tornade, voilà. son enfant par la main avec un pistolet. Ouais. Il y a une scène, mais alors là on parle de vision qui est extraordinaire. Elle tire au pistolet ou au revolver, je ne sais plus, contre la tornade en tenant son enfant. Là il y a quelque chose de mythique, là.
Ce qui est une manière assez trumpienne de lutter contre le réchauffement climatique, finalement.
Second extrait.
Et la tornade les laisse tranquilles.
Et voilà, et la tornade, justement, c'est là où le décor finit par être habité et hanté. C'est
ah bah si je parlais du magicien d'Oz, il fallait absolument qu'une tornade arrive au bout d'un moment, quand même.
Tout à fait. Et sans plus réfléchir, elle frappa l'enfant en plein visage. Cindy tomba à quatre pattes, son sang commençant à goutter sur le tapis. Hayley éclata de rire. Cette sale peste sous le choc n'avait pas l'air de comprendre ce qui lui arrivait. Au niveau de ce qui restait de sa bouche, les rouges organiques et cosmétiques s'harmonisaient. Sa belle robe, à présent tachée, lui donnait des airs de princesse de film d'horreur. Norma ne s'en remettrait jamais. Ses espoirs de voir sa fille briller un jour sous les feux de la rampe fracassaient en même temps que son charmant petit nez. Cindy vomit sur sa robe et commença à pleurer, ses larmes traçant des sillons aqueux entre les meurtrissures de sa peau. Et juste pour le frisson de la vengeance, Hayley lui donna un autre coup sur les joues qui firent sous l'impact le bruit d'un ballon qui éclate. Voilà un second extrait d'Héléna de Jérémy Fell aux éditions Rivage, notre invité de ce soir sur France Culture dans Mauvais Genre. Alors ça, c'est quand même la scène qui est pour moi l'équivalent de ce qu'était le dîner de famille ensanglanté dans Les loups à leur porte. C'est-à-dire le moment où justement ce grand décor immense reçoit un coup comme ça, déchiré, c'est un accro. C'est la scène où la petite fille est défigurée à coup de batte de... canne de golf, mais on n'en dira pas plus. Ce qui nous permet effectivement de ne pas parler de cet enfant dont après l'horreur de sa situation est suivie bien sûr par le narrateur, mais également par sa mère qui voit là disparaître toute la part de rêve et de perfection qu'elle avait dans sa vie. Mais ça nous permet de confronter effectivement Tommy et Hayley. Et là, de deux rapports à la violence, puisque l'un et l'autre ont été d'une certaine façon détruit par deux événements, le premier créant pour l'autre. Tommy, c'est un lien avec son père qui l'a détruit, et puis par contre Hayley, c'est totalement accidentel. Autant l'un est victime des circonstances familiales, autant l'autre est victime du hasard.
Oui, c'est bon, je me suis rendu compte au bout d'un moment que Tommy et Hayley se ressemblaient quand même beaucoup. Et les deux, voilà, parce qu'il y a aussi une scène, on les voit chacun dans une situation, il y en a une qui a peur que Tommy revienne, et Tommy qu'on imagine pas loin, et en fait il est apeuré, lui aussi, dans une autre partie de l'endroit, et lui aussi a des cauchemars, il aussi a peur. Voilà. Et ces deux personnages, effectivement, ont un espèce de bagage familial très dur. Différent, parce que Hayley, c'est la perte de quelque chose, enfin c'est la perte de sa mère qui et puis bon, alors je sais pas trop en dire, mais c'est il lui manque plein de choses au rapport maternel. Voilà. Et Tommy aussi, parce que Tommy, sa mère ne peut pas, malgré tout, ne peut pas lui donner l'amour qu'elle lui donne à son autre fils qui vient d'un autre père, qui lui est un personnage très différent du père de Tommy. Et comme quand elle surprend une scène terrible, elle n'arrive pas à le prendre dans ses bras, elle aura toujours une distance par rapport à lui, donc il y a aussi un rapport à sa mère très, très particulier. D'ailleurs, Tommy, son seul rêve, c'est que sa mère le prenne dans ses bras et lui dise qu'elle l'aime, ce qui n'arrive jamais.
Élise Lépine.
Et c'est vrai qu'on sent chez le personnage d'Hayley que cette violence qui va éclater chez elle au gré de sa rencontre avec Tommy, elle remonte à beaucoup plus loin. C'est quelque chose qu'elle avait en elle depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup, ça vient pas de nulle part. Je veux exprimer ça parce que j'ai une réaction à un événement. C'est quelque chose qui couve et on sent que c'est quelque chose qui la ronge depuis toujours et qui va la ronger ensuite et qui finalement, c'est juste un événement déclencheur qui la provoque.
Oh oui, je pense aussi.
Vos personnages ont une autre caractéristique, c'est un jusqu'au boutisme assez étonnant. Donc ils se fixent tous un but, un challenge, je protège mes enfants, je sauve ma peau, et ils y vont sans...
Je me venge.
Oui, et ils y vont sans aucune réserve. Mmh. C'est rare de rencontrer des personnages comme ça qui sont autant sans hésitation dans l'action et se fixent un but jusqu'à l'obsession.
Oui, parce qu'ils sont tous dans une situation où ils n'ont même pas le temps de réfléchir en fait. Ils sont tous pris dans une espèce de mécanisme infernal, comme ça. Et que ce soit Graham, qui essaie de faire bien les choses, Norma, qui se retrouve dans une situation... c'est un peu le choix de Sophie. Est-ce que je vais aider une jeune fille? Est-ce que je vais aider mon fils? Et puis, il y a tout le passé qui ressurgit à n'importe quel acte. Ils ont pas le temps de réagir. Tommy, c'est pareil. Lui, Tommy n'arrive pas à voir la réalité en face. Il vit dans un monde de cauchemars et de fantasmes. Et tout ce qu'il fait, il donne un sens très particulier et très subjectif à ce qu'il fait. Et donc, ils ont un rapport à la réalité qui s'effrite de plus en plus. Puisque ils n'ont pas le temps de réfléchir. Évidemment, les lecteurs, les voyants, se disent mais comment on peut aller aussi loin. Mais voilà, ce roman-là, c'est un roman qui pousse. Enfin, j'ai essayé de pousser les personnages dans le pire retranchement.
Ils sont tous pris dans un rapport très contradictoire aussi au corps des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'admiration. Par exemple, Tommy qui regarde les jeunes filles, qui les trouve belles, qui les désire, etc. Norma qui regarde sa fille Cindy, qui la trouve jolie, qui veut en faire une vraie petite poupée. Et puis en même temps, on bascule chez les uns et chez les autres dans la destruction, dans l'annihilation, la défiguration de l'autre. C'est un climat très étrange de désir de se réjouir de la beauté et de détruire aussi le corps de l'autre. C'est étrange.
Oui,
c'est d'étrange.
Ah oui, alors c'est comment répondre. Oui, bah en plus c'est pour ça aussi que, enfin c'est un peu Norma avec Cindy, c'est un peu, elle est pas dupe, elle sait très bien, c'est sa seule façon de d'aider sa fille, elle la trouve jolie, elle se fixe à ça. Alors on voit cette mère de famille qui a voulu devenir comme Eden avant et qui ne voit que la beauté de sa fille. Et c'est pour ça que quand sa fille est défigurée, son rapport à elle s'effrite. Voilà. Et après, oui, Tommy, c'est la frustration, c'est l'envie de posséder un corps. Enfin, c'est. Je ne sais pas si je réponds à la question d'ailleurs.
Non, mais... c'était plus une remarque qu'une question. Oui, c'est une impression forte de lecture. On est dans la jouissance de la beauté et dans la jouissance de la destruction. Il y a quelque chose d'esthétique le passage que vient de lire François Angelis, c'est quand même.
C'est le plaisir pervers de détruire quelque chose. En même temps, un plaisir ça montre aussi une jalousie parce que. À la fin du livre, on se rend compte de certaines choses sur le passé de Hélène, on va dire, et on voit que le fait de ce qu'a fait cette gamine, c'est pas que pour toucher sa mère, c'est aussi par pure jalousie, parce qu'elle voit une enfant qui n'est pas ce qu'elle était avec, et il manque, elle a quelque chose qu'elle n'a pas. Enfin, y a beaucoup de choses qui sont mises dans ces actes.
Elena de Jérémy Fell, aux éditions Rivage, à n'en pas douter, donc le meilleur roman noir de la rentrée, 732 pages, où on retrouve... porté encore au-delà, et puis avec toutes les promesses qu'il y avait dans Les loups à leur porte, eh bien, sont réalisées là, dans ce roman. Bah, on sera très impatients de voir la suite, puisque vous suivez les hantises d'un lieu. Est-ce que c'est toujours le prochain?
Prochain ne se passera pas du tout aux États-Unis. Il se passera en Europe, il se passera sur plusieurs siècles, dans plusieurs époques, sur plusieurs endroits, et dans des endroits qui n'existent même pas. Donc voilà, ça sera une trilogie, donc ça sera nouveaux lieux, nouveaux personnages, nouveaux décors.
On sera attentif. Voilà, nouvelle rubrique d'un mauvais genre tous les samedis à partir donc de cette saison. Laurent Polleret, toujours lui, vous recommandera à chaque fois un disque dont il nous fera écouter un extrait. Alors là, le disque est signé par le groupe Léal, Baptiste Martin, alias Léal. Jeune compositeur basé à Lyon associe ses machines et son goût pour les expérimentations sonores pour proposer un voyage sensoriel vers des horizons perdus. Une bande-son envoûtante, pleine de textures suaves et de mélodies insaisissables. Léal, donc la recommandation de Laurent Polleret pour cette émission, la première émission donc de Mauvais Genre de cette nouvelle saison. D'autres recommandations maintenant donc de nos chroniqueurs. On va commencer avec vous, Élise Lépine, et avec Dégradation. Alors on parlait de dégradation du visage, dégradation du climat familial, dégradation de tout ce qui peut se dégrader. Benjamin Myers, alors si vous le permettez, Jérémy Fay, l'autre découverte de cette rentrée. Premier titre traduit en français au seuil dans la condition cadre noir, donc d'un auteur anglais, et là, coup au foie.
Coup au foie, direct au foie. On se demande d'ailleurs pourquoi Benjamin Myers, qui a publié plusieurs romans en Angleterre, n'avait pas encore été traduit en français. C'est vraiment une découverte incroyable. Alors là, on est dans un début de roman de thriller assez classique, hein, avec une jeune fille qui promène son chien sur la lande au fin fond de l'Angleterre, dans la neige, et puis qui tombe nez à nez avec un chasseur hébété, sauvage, marginal, qui la tue. Et qui va dissimuler son corps. Alors, un policier se lance à la recherche de la jeune fille, branle-bas de combat évidemment. Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à partir de cette confrontation entre la victime et son bourreau, on va plonger dans les méandres d'une petite ville rurale dirigée par des notables pire que pendre, ouais, qui ont organisé un vaste trafic de réalisation et de diffusion de snuff movies avec viol, torture et mise à mort de victimes.
Et tout cela dans le sous-sol d'un cinéma pornographique.
Tout ça dans le sous-sol d'un cinéma porno, voilà, dans lequel on va passer pas mal de temps. Alors Benjamin Myers explore cette histoire, qui est aussi d'ailleurs une histoire tentaculaire, à travers le personnage de son enquêteur qui lui est animé de toc, hein, c'est ce genre de personne qui a besoin de vérifier qu'il a bien fermé sa porte 8 fois, sa gazinière 8 fois, etc.
Dont le visage est marqué par une tache
par
de naissance.
Par une tache de naissance, qui est accompagnée malgré lui d'un journaliste, lui qui essaye de se remettre d'une vie de beuverie londonienne, et avec qui il va tisser d'ailleurs une amitié amoureuse qui est très intéressante, et qui est rare dans le polar. Et on va vraiment plonger dans ce monde extrêmement noir de cette petite ville rurale. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un roman qui suscite, qui provoque chez le lecteur des émotions très fortes, de dégoût, de mal-être. En même temps, on n'est pas dans une violence graphique non plus, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène. C'est pas un thriller qui, sur 3 pages, on a des descriptions de torture, de violence et de sévices. On est vraiment dans l'invention du frisson, du malaise chez le lecteur qui vient de ce décor, cette ambiance très sombre qu'il arrive à mettre en place cet auteur Benjamin Myers. Moi, c'est vraiment un roman qui m'a hanté pendant tout l'été après la lecture.
D'autant plus que les thématiques sont assez classiques. On est effectivement en province, une enfant disparaît, fille d'un notable, deux enquêteurs contradictoires, l'un qui est plutôt psychorigide et l'autre qui est incapable d'être rigide une seule seconde, est un peu déliquescent. On met en cause les notables. Bon, tout ça, on connaît par cœur. Ça fait partie du, je peux dire, du pain quotidien, mais du train courant du polar depuis des décennies. Mais c'est l'écriture de Myers.
L'écriture est formidable.
Avec ces phrases qui sont déponctuées, qui sont comme des espèces de giclures de ce que vous voudrez, qui sont assez, là aussi, il y a tout un travail dans l'écriture, un rapport à la nature, au paysage. Absolument étonnant. Grande découverte.
Et puis, il y a ce personnage du chasseur, là, ce Steven Rutter.
Et Steven Rutter, que vous n'oublierez pas. De même que vous ne l'oublierez pas plus sa mère. Sa mère qui est tout, c'est le grand. C'est une émission consacrée aux mères. C'est une autre version normale, l'héroïne de Jérémy Fell, mais.
Là, c'est les péchés de leur mère. Hein,
voilà. Vraiment. Rivière Tremblante d'André
Rivière
Michaud.
Rivière Tremblante d'André Michaud, donc chez Rivage Noir. Là, c'est un roman qui explore aussi la disparition de l'enfant. Hein. On a une scène terrorisante d'ouverture. sûr, avec un jeune garçon qui est dans les bois, qui joue avec sa petite copine, et puis qui disparaît sous l'orage, brutalement. Et la petite fille est accusée d'avoir contribué à sa disparition, alors pas vraiment de manière concrète, mais en lui portant le mauvais œil. Elle va porter ça toute sa vie. 40 ans plus tard, un père de famille dans une grande ville du Québec perd sa petite fille. Il ne la retrouve pas. Il la cherche pendant des années, puis il décide de partir à la campagne et il s'installe, comme par hasard, à Rivière-aux-Trembles, à quelques mètres de là où a disparu ce jeune garçon. Des décennies plus tôt, il va rencontrer la jeune fille qui est devenue une femme et qui porte cette névrose. Alors, c'est pas un roman classique, on n'a pas une enquête avec que sont devenus ces deux enfants, etc. Mais André Michaud, elle est vraiment dans le cœur, dans le cœur du polar, dans le cœur du roman noir, puisqu'elle explore le mal absolu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette violence terrible qui est faite aux enfants et qui est faite à leur famille quand ils se retrouvent avec l'impossible deuil de l'enfant qu'on ne retrouve jamais. Et elle explore avec une écriture magistrale et formidable ce sentiment du deuil, de l'angoisse, de la panique et de le côté inconsolable de ses parents face au mal absolu qui est commis contre leurs enfants. C'est un livre, alors je suis un peu en avance, il va sortir le 19 septembre.
Ouais, mais
et André Michaud sera
Rivage.
À America.
Et voilà, elle sera au Festival America, un événement également soutenu par France Culture. Donc on va parler de titres, Dégradation de Benjamin Myers, C'est au seuil en cadre noir, et Rivière tremblante d'André Michaud, c'est chez Rivage. Hubert Prolongeau, deux recommandations, mais là, avant une disparition.
Oui, malheureusement, je voudrais rendre hommage à Pierre Chéreau. Donc, Pierre Chéreau était un journaliste spécialiste d'Afrique, Sciences Po Bordeaux, le CFJ, l'autre Afrique, Courrier International. Il a longtemps vécu au Nigeria et il a écrit quelques romans noirs qui sont passés trop inaperçus, je crois, dont deux se passaient au Nigeria, Nena Rastaquer et Lagos 666. Il a fait également deux poulpes, l'un qui s'appelait Togo hors notre Togo, et l'autre au titre très drôle, qui était hors Afrique, s'appelait La Vacance du Nicolas, et s'en prenait tâche salubre à Nicolas Sarkozy. Malheureusement, Pierre Chéreau est mort tragiquement cet été à Soulac, où il s'est noyé en essayant d'aller sauver son fils de 10 ans, qui lui-même était emporté par les vagues, mais a pu, lui, revenir au rivage. Pierre, malheureusement, non, a été emmené et mort à l'hôpital de Bordeaux. Donc voilà, je voulais qu'on lui rende un hommage et que, pour ceux qui ne les ont pas lus, lisent ces livres qui, une fois de plus, n'ont pas eu forcément l'écho qu'ils auraient dû avoir. John Krakauer, en revanche, lui, a eu tout l'écho qu'il pouvait.
Votre première recommandation.
Voilà,
que presse de la cité.
Son nom est connu. Il est journaliste et écrivain, lui aussi. Il est l'auteur d'Into the Wild, adapté par Sean Penn. Il est l'auteur de Tragédie à l'Everest, adapté également dans un film un peu moins bon, mais qui était un livre assez remarquable. De Sans consentement, qui vient de ressortir chez 10-18, qui est un livre sur le viol. Et là, c'est un livre qui date de 2004, qui s'appelle Sur ordre de Dieu, et qui est consacré aux Mormons à partir d'un fait divers tragique. En juillet 1984, deux frères, Ron et Dan Lafferty, assassinent à coups de poing et de couteau leur belle-mère et leur belle-sœur, pardon, et son bébé de 15 mois. Motif de l'acte, Dieu leur avait dit. À partir de là, Krakauer amène toute une réflexion sur ce qu'est la pensée religieuse et son influence, puisque les Lafferty sont mormons. Alors attention, avant qu'on se prenne des lettres multiples,
ils
sont fondamentalistes mormons, c'est-à-dire
une catégorie déviante,
tranche, mormon qui est aux mormons normaux ce que Daesh est à l'islam. Mais Krakauer se sert de ce fait divers pour raconter l'histoire des Mormons et raconter la naissance d'une religion. Et c'est absolument fascinant. On part du fondateur, Joseph Smith, on suit son successeur, Brigham Young, et surtout on voit naître, à partir d'une névrose personnelle qui est celle de Joseph Smith, qui était un homme à femme, la naissance de la fameuse polygamie qu'ils appellent plus courtoisement le mariage plural.
Voilà.
C'est beaucoup mieux, dire je présente ma femme, mon épouse plurale. Et donc cette polygamie qui est une pierre d'achoppement permanente aujourd'hui entre les Mormons et l'État américain. Il montre comment ça a pu se mettre en place, il montre comment la révélation est née à Joseph Smith, et parce que c'est pas un livre qui est du tout anti-religieux, c'est ça qui est intéressant, tout en donnant sa place à ce que peut être la foi et à la nécessité pour beaucoup d'une vie spirituelle, il montre aussi comment elle naît de manipulations faites par des hommes. Donc Joseph Smith a eu des révélations assez délirantes, je rentre pas dans les détails, mais il a fouillé pendant des années, il a trouvé des plaques d'or qu'il a traduit, qui étaient un message de Dieu qu'il a transmis à son bon peuple. Il se trouve que les plaques d'or ont disparu, donc l'authenticité n'a jamais pu en outre vérifier. Et il a commis, ce qui est assez drôle, l'erreur au départ, de considérer que tout le monde pouvait avoir un dialogue avec Dieu. Donc, les prophètes se sont multipliés. Il a fallu de moments qu'il explique quand même que justement, même Dieu venait de lui dire, de transmettre qu'il n'y avait que lui qui avait la bonne parole et que les autres s'égaraient. Krakauer raconte ça de manière absolument passionnante, démonte ce fait divers et dans un livre qui est relativement apaisé, met à jour les mécanismes du délire religieux.
Donc, c'est auprès de la cité, on rappelle le titre,
de la cité, sur ordre de Dieu.
Sur ordre de Dieu.
L'autre livre que je voulais signaler, alors ceux qui l'ont déjà lu, les deux premiers seront familiers, c'est un livre de Romain Slocombe qui s'appelle Sadorski et l'ange du péché. Sadorski est un flic qui est membre des renseignements généraux dans une époque assez troublée de notre histoire, parce que c'est pendant l'occupation. Il est déjà apparu dans l'affaire Léon Sadorski et l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Et ce qui rend le livre intéressant, outre sa richesse historique, c'est que le héros est un salaud parfait ou presque. Donc au lieu de nous faire adhérer à un courageux combattant qui lutte contre la peste brune, il montre au contraire quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour en profiter, et quand il est amené à faire le bien, le fait de manière détournée et pour essayer de se protéger lui-même. Ce troisième épisode se passe au printemps 43, donc Sadorski traque les juifs et les communistes, comme d'habitude, fait du marché noir, tombe dans l'abus de pouvoir, mais sentant que le vent va peut-être tourner, est amené à essayer de sauver, pour des raisons très personnelles et pas forcément humanistes, une jeune juive. Le roman se lit avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et surtout mêle admirablement l'intrigue et la richesse de la documentation.
Sadorski et l'ange du péché de Romain Slocombe, qu'on
salue, Robert Laffont,
puisque c'est un ami de mauvais genre, aux éditions Robert Laffont. On termine cette émission, bien évidemment, avec le maître Bire.
L'autoportrait est célèbre, intitulé « Le parfait gentleman », un cliché noir et blanc de 1959 d'un homme au sourire indéchiffrable, regardant droit dans l'objectif, portant des lunettes, une cigarette au bout des doigts. Un sobre raffinement, cravate sombre sur chemise blanche à boutons de manchette. L'attention est happée par la taille d'un étranglement extrême qui scinde le corps en deux, une taille de guêpe. Roland Loomis porte un corset de sa propre confection qui lui dessine une taille de 48 cm de circonférence. D'autres photos le révèlent quasi nu, toujours aussi compressé par une large ceinture de cuir, au besoin renforcé avec un outillage de métal, la peau tendue du ventre tatouée, les tétons percés d'anneaux, la poitrine trouée de pointes, les cuisses contraintes par des bandes d'acier ou de cuir. L'homme guêpe va échouer dans son commerce de corsetterie, nouvellement créé, mais donne naissance au mouvement des modernes primitives. Il en est un pionnier solitaire, expérimentant depuis son adolescence, à l'insu de ses parents, frères et sœurs, une dévote famille luthérienne qui ignore ce qu'il se trame dans le grenier. Il y dévore les pages du National Geographic sur les modifications corporelles des peuplades primitives, fasciné par les rites d'initiation de Nouvelle-Guinée qui imposent aux jeunes garçons le port d'une ceinture de compression. Un documentaire à sensation, Dangerous Journey, co-réalisé par la fille de Theodore Roosevelt, l'impressionne par ses images de femmes girafes et de torses scarifiés. Il correspond bientôt avec John Wiley, dont il lit le confidentiel bizarre et évoque avec lui la discipline masochiste des talons vertigineux. Il façonne son corps dans une intense dimension auto-érotique. Tatouage, branding, bondage, infibulation, privation sensorielle et élongation sont supplantés par de spectaculaires suspensions verticales inspirées de l'Okipa, un cérémonial de guerriers Sioux. Au moyen de crochets plantés dans la poitrine, il se suspend près de 30 minutes à une corde attachée à un arbre dans le désert du Wyoming. Il n'est pas question de douleur, mais de sensations d'extase et de beauté, d'une conscience séparée du corps. Dans les feux contre-culturels de la fin des années 70, Roland Loomis devient Fakir Mustafar. Il n'a propagé qu'un message. Notre corps n'appartient ni à un dieu, ni à la société. Il est à nous, instrument de paix intérieure, au-delà des souffrances les plus intenses. Il est mort en août dernier, fidèle à cette liberté insolente qui le guidait depuis le jour où, à 14 ans, il perfora son prépuce, un minuscule et timide trou, le premier d'une vie de discipline consacrée à l'exaltation du corps transformé.
Merci Maître Beer, merci Jérémy Fell d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour ce qui est pour nous l'événement noir de cette rentrée 2018. Elena, votre roman aux éditions Rivage qui passe largement de toutes les promesses faites dans le premier, les lois leur portent. Il faut lire, relire, faites relire et faites lire. Elena de Jérémy Fell, c'est chez Rivage. Nous recommandons également Benjamin Myers, Dégradation au Seuil. André Michaud, Rivière Tremblante, c'est chez Rivage également. Lecomte, Sadorski et l'Ange du Péché aux éditions Lafon, et puis Sur Ordre de Dieu de Jon Krakauer, c'était aux éditions Les Presses de la Cité. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Nior, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Biret, François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain à 22h avec Nicolas Stanzik pour le tome 3 de sa réédition de Midi Minuit Fantastique et la sortie chez ESC de la série Hellraiser de Clive Barker. Et d'ici là, bonne nuit à tous.